Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, on va parler théâtre. On va recevoir Luce Pelletier, qui est directrice artistique du théâtre de l'Opsis et metteur en scène de la pièce de théâtre That Moment, le pays des cons, qui se jouera à la salle Fred Paris du théâtre Denise Pelletier. Alors cette pièce, elle dépeint les tourments d'une société où tout se vend et tout s'achète. Ça vous fait penser à quelque chose ? De toute façon, on en parle dans un instant. Après, nous parlerons cinéma avec notre chroniqueuse Louise Véronique Sicotte. Elle nous présente deux documentaires, Perdre Mario de Karl Leblanc et Les dernières baleines noires de Nadine Péquen. Voilà, pour l'instant, nous partons en musique avant de retrouver Luce Pelletier. Et là, on part avec Ellie Woods qui nous chante l'air de cacher son malheur. L'art de cacher son malheur.
Qui m'écrase sous ma chair mentale. Je me dis que c'est juste une phase et j'essaie de les faire taire. C'est là. J'en garde le sourire, acheté sous ordonnance, le cerveau sur silence, y a plus rien qui les fait rire, c'est là.
Et voilà, comme précisé en début d'émission, nous sommes avec Luce Pelletier. Bonjour Luce.
Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue. Alors vous êtes, comme j'annonçais tout à l'heure, directrice artistique du théâtre de l'Opsis et metteur en scène de la pièce de théâtre That Moment, le pays des cons, où j'ai eu la surprise de voir que le texte avait été écrit en 2013. Et j'ai pas encore eu la chance de la voir, cette pièce. Je vais y aller bientôt, avec grand plaisir. Mais quand je lis, entre autres choses, l'histoire, le pitch, que c'est aussi une critique sanglante de la société contemporaine où la poursuite de la réussite individuelle pousse chacun à renier les valeurs humaines, j'ai l'impression qu'on l'a faite hier. Ou du moins qu'on l'a écrite hier.
Totalement. C'est très, très, très actuel. En plus, avec tout ce qui se passe en Ukraine. Parce que cette pièce-là se passe en Moldavie, juste à côté de l'Ukraine, et il y a toute une partie où il nous explique qu'à un moment donné, la Moldavie est avec les Russes, à un autre moment donné, ils pouvaient aller à la mer qui était dans leur pays. Après, la mer n'était plus dans leur pays, était rendue en Roumanie. Bref, tout le chambardement de ce coin de pays-là est raconté là-dedans. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle aussi le pays des cons, dans le sens que l'autrice, c'est une autrice d'avant-garde de la Moldavie, et elle provoque son gouvernement, elle provoque les choses pour que ça bouge.
Ben c'est ce qu'il faut faire, provoquer pour que ça bouge.
Oui.
Il
n'y
a,
voilà.
a pas d'autre chose, que ce soit à plus ou moins grande échelle, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire pour que ça bouge.
Oui, et elle ne se gêne pas. Elle nous rejoint même
elle a bien
si
raison.
Au Québec. Oui,
voilà,
oui,
elle a bien raison. Et en tout cas, je suis super. Enfin, on va faire l'entrevue, mais je suis super impatiente d'aller voir cette pièce. Voilà.
Oh, tant mieux.
Et d'en parler après, bien sûr. Donc, il y a quand même des choses qui sont complètement excessives, parce que quand on raconte un petit peu, qu'on parle un petit peu de l'histoire, alors on parle tout se vend, tout s'achète, d'accord. Les médecins pour qu'ils soignent comme il faut, d'accord. Les enseignants pour qu'ils accordent des bonnes notes, d'accord. Mais le pire qu'on lit dans la présentation, ça on peut le dire, hein, puisque c'est sur le pitch,
oui, oui, oui.
On peut même vendre le rein de l'enfant d'un voisin pour acheter un iPhone à son fils.
Oui.
Alors, ça,
oui, elle ridiculise, elle amène ça au bout.
Ouais.
Mais une réalité qui existe, en fait, je veux dire, c'est pas
oui,
si loin que ça.
C'est inspiré de faits réels, donc.
Oui, oui. En fait, c'est parti d'un fait d'un père, son fils avait volé une pomme, je crois, et il lui a coupé un doigt pour lui montrer que voler n'est pas bon.
Oh mon Dieu!
Oui, c'est ça.
Vous imaginez si on coupe un bout de nez ou autre chose à tous ceux qui mentent? On va plus avoir grand monde avec un beau visage.
Une société déclopée.
Oui, je pense que ça va être ça, ni plus ni moins. Vous avez dû avoir un super grand plaisir à mettre en scène cette pièce.
Oui, c'est délectable. C'est un texte très bien écrit, plein de comment dire, pas de sous-entendus, mais plein de couches. Donc, on peut fouiller longtemps. Nous, on l'a monté en 2020, juste avant que le gouvernement ne ferme les théâtres
oui.
pour la première fois. Donc, revenir dans l'œuvre, on fait « Ah, on trouve encore autre chose, un autre plaisir de se moquer ». Et à l'époque, c'était juste avant que c'est l'élection où Trump a perdu. Mais bref, là, c'est pendant l'Ukraine. Fait que, ça a toujours des répercussions différentes.
C'est un truc de fou. Et puis vraiment, comme je dis tout à l'heure, à plus ou moins grande échelle. Hein, quand, dans la totalité, oui. comme dans un tout petit bout, on se retrouve de partout. Quoi. Enfin,
oui,
en tout cas, moi,
ça.
C'est cette impression que j'ai eue quand j'ai lu ça. Donc, c'est quelqu'un dont les textes arrivent au Québec, d'après ce que j'ai vu. Comment vous l'avez trouvé? Comment vous a été proposé? Comment ça s'est passé?
Ah, eh bien, je ne sais pas. Moi, je suis au Théâtre de l'Opti, je travaille par cycle artistique. Donc, présentement, je cherche des textes écrits par des femmes.
Voilà, c'est un cycle de femmes. C'est ça que j'avais
oui,
vu.
Oui,
hein.
C'est ça, de territoire féminin. Et donc, puis le mandat de l'Opti, c'est du théâtre contemporain, mais étranger, qui n'est pas fait au Québec, qui n'est pas écrit au Québec. T'sais. Donc,
oui.
J'essaie de lire un peu chaque coin de pays. Et cette autrice-là, en Moldavie, elle est très connue, très provocante, très. C'est la nouvelle garde ouais. qui monte.
Vous en aviez entendu parler avant de la lire? Excusez-moi de vous avoir coupé.
Oui, oui, oui? Totalement, oui.
D'accord.
Donc, je suis allée chercher ses bouquins. J'ai la chance d'avoir des correspondances aussi avec l'Arche éditeur qui édite donc ses textes. Ils m'envoient ça. Bref, ils me font découvrir plein d'auteurs, d'autrices. Et dès que je l'ai lu, j'ai été charmée.
Ah ben oui. Vous avez même dû encore plus que ça, parce qu'elle semble répondre à... enfin, je sais pas, hein, parce qu'on parle toujours que de soi à travers ce qu'on dit, mais moi j'ai l'impression qu'elle répond à plein de petites choses de colère qui sont pas encore sorties et que, ça va me faire du bien de voir cette pièce.
Oui, en temps de pandémie, ça fait énormément de bien de dire, d'entendre et de provoquer ça, parce que nous, on se dit, ah non, notre pays, c'est une démocratie, on est loin de ça, mais finalement... On n'est pas si loin, tu sais, dans le sens
non,
que...
Ouais. Ah oui, c'est sûr, on découvre plein de choses. Puis justement, c'est ce qui a manqué pendant tout ce temps où les théâtres ont été fermés, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas eu que les théâtres, mais entre autres,
non.
C'est-à-dire que c'est bien bon d'avoir chez soi du pain et du fromage et une banane, mais en même temps, on a aussi besoin de rencontrer d'autres personnes et d'entendre une autre histoire et de vivre autre chose. Et d'apprendre autre chose à travers le théâtre, c'est formidable, quoi.
Oui, puis c'est une nourriture de l'esprit essentielle. Je veux ça faire réfléchir tout en divertissant, mais ça nous amène à réfléchir. C'est un texte qui traîne dans notre corps, dans notre esprit longtemps, puis qui provoque des choses à court et long terme. Fait que c'est bien aussi, ça sert à ça le théâtre. Ça fait avancer la société, ça fait réfléchir.
Bien sûr,
c'est un bien essentiel.
C'est un peu comme... moi, j'ai toujours eu le sentiment... Bon, j'adore le théâtre, hein, je suis fan. Mais en même temps, j'ai toujours eu l'impression que c'était un sentiment de machine à laver. Vous savez, vous arrivez, vous vous asseyez, vous ne connaissez pas vraiment l'histoire. Mm-hmm. Moi, j'essaye de ne pas la connaître trop pour plonger dedans avec émotion. Et des moments, je ressors au point, il m'est arrivé de ressortir et puis de me tromper de chemin pour rentrer chez moi. Donc, tellement j'étais encore dans l'émotion de ce que je venais de vivre.
On imbibe tout ça, puis ça nous amène ailleurs.
Oui, ça.
La télé, c'est bien, on est heureux d'avoir toutes les Netflix et compagnie, mais le théâtre, ça peut aller encore plus loin, ça me semble.
Le théâtre amène à une réflexion. La télé, enfin, tout dépend ce qu'on regarde, mais quand on regarde des films et des choses comme ça, c'est presque comme si on jouait à un jeu à deviner déjà la fin ou ce qui va arriver, ou etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est un jeu auquel je joue. Mais le théâtre, c'est vraiment... On arrive, on ne sait pas comment on va se sentir. On a le sourire, on est content. On repart, on a les larmes aux yeux, ou on pleure, ou on est heureux, ou on rit. Enfin, il y a plein d'émotions exacerbées qui nous boostent à travers le théâtre.
Oui. Voilà. Et le fait d'être ensemble aussi pour recevoir quelque chose, c'est un art vivant, donc ça se passe au moment présent, la communion entre la scène et la salle. Assez magique, autant pour les interprètes que pour les spectateurs.
Mais oui, c'est le moment merveilleux, tellement émouvant, quand on se lève pour applaudir les artistes qui nous ont émus, qu'on en aurait presque les larmes aux yeux à leur place, et que c'est un moment magique, ça fait passer. Ça nous a manqué beaucoup. Hein. C'est parce que ça nous a manqué qu'on se rend compte de toute la valeur de ce qu'on a laissé. Luz, on va faire juste une petite pause musicale, et puis on revient tout de suite après.
D'accord.
Donc on va écouter Clo Pelgag qui nous chante « Où vas-tu quand tu dors ?»
Je dors. Tu t'endors, toi qui ne sais même pas, tes yeux.
Et voici, nous revenons avec Luce Pelletier, metteur en scène et directrice artistique du théâtre de l'Opsis. Luce, quand je dis metteur en scène, c'est comme une petite partie de vous, parce que vous faites tellement de choses. D'ailleurs quand je lis la présentation, je lis femme orchestre et je trouve que ça vous ressemble bien.
Si on veut. Mais c'est un métier où il faut savoir faire beaucoup de choses et... Bref, ça rentre bien dans une vie quand même.
Oui, ça remplit bien une vie. Vous en êtes à combien de mises en scène?
Oh, j'ai jamais compté.
Ah, d'accord.
Je ne sais pas. J'en fais au moins une par année professionnellement, sinon deux. Et je fais aussi beaucoup de mises en scène dans les écoles de théâtre. J'enseigne, donc je compte plus.
Ah oui, ben, vous devez être passionnante.
Je suis boulimique.
Vous devez être passionnante pour vos élèves. Enfin, pour ceux qui ont la chance de travailler avec vous.
Exigeante en même temps. Exigeante. C'est un métier. Alors, oui. Je veux les préparer qu'on a tellement d'interprètes que c'est ça. Faut être prêt quand on arrive. Enfin, oui. Bref, j'ai un niveau de demande
qui est assez exigeante. Oui. Mais voilà, je trouve qu'il faut savoir aussi, il faut savoir tomber et se relever et accepter de le faire aussi parce que c'est pas toujours évident.
Oui. C'est un métier, même metteur en scène, qui demande de mettre l'épaule à la roue. Là, ça se fait pas tout seul. Oui. Moi, j'aime chercher dans les textes, j'aime chercher les sens, amener ça, rendre ça justement pour un public. Bref, c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de temps et c'est exaltant quand on aime bien, mais il n'y a pas juste la gloire, disons.
Non, oh là, il y a tellement d'autres choses avant.
Oui,
et si même on y arrive. Donc, la pièce s'appelle That Moment, le pays des cons, parce que c'est deux textes qui ont été écrits différemment?
Oui, en fait, That Moment, c'est le vrai titre de la pièce.
D'accord.
Mais ici, au Québec, on avait peur que les gens pensent que c'était en anglais, etc.
Ah oui.
Fait que c'est pour ça que j'ai rajouté Le Pays des cons, parce qu'elle dit toujours ça dans le texte That Moment. Et c'est des textes très courts, ça dure une heure ensemble.
Oui.
Donc, j'ai ajouté à ça une nouvelle que j'ai lue d'elle, qui nous parle justement de la Moldavie, qui met la table pour qu'on sache où on est, qu'est-ce qu'on vit.
Donc, ah oui, d'accord.
Oui.
Pour qu'on apprenne un petit peu.
Oui, c'est assez intéressant, oui.
Vous nous faites l'entrée avant le plat de résistance, quoi.
C'est à peu près ça.
Alors, comment s'est passée la mise en scène? Il y a combien de comédiens sur scène?
Ils sont cinq. C'est un monologue, en fait, deux monologues racolés, que j'ai partagé en cinq voix. C'est donc un spectacle choral. Oui. Pour justement avoir la pluralité de ces voix, avoir la population, avoir aussi des gens différents qui représentent chacun une couche ou une façon,
la société,
une personnalité. Oui.
Il faut avoir quand même une sacrée belle cohésion, osmose, j'ai envie de dire, entre les comédiens pour pouvoir se partager un texte qui est à une voix et le mettre à cinq. Non?
Oui, pour prendre la balle au bon et tout ça. Mais moi, c'est un travail que j'aime bien faire, un travail d'équipe aussi. Donc, d'écouter l'autre, de prendre où est-ce qu'on est rendu et d'amener ça plus loin, etc. Puis non, c'est le gros de notre travail, c'est beaucoup ça. Mais c'est une belle équipe qui s'aime beaucoup, qui joue ensemble, qui le texte leur plaît aussi. Dès que je leur ai envoyé, chacune m'a répondu tout de suite un oui. Oui, je veux jouer ça.
Déjà, ça partait bien.
Oui, c'est ça.
D'après ce qu'on en a dit tout à l'heure, donc entre le moment où il y a eu les toutes premières répétitions et puis le fait que les théâtres ont été fermés et que ça n'a pas pu être de jouer à ce moment-là, est-ce qu'il y a des changements, vous me disiez, qui ont été effectués encore dans le texte? Vous avez...
Non, parce qu'on l'avait quand même bien travaillé.
D'accord.
La première fois, mais là, on le revisite, on retrouve des sens, on fait « Ah oui, telle chose, peut-être qu'on... » En fait, on ne change pas le texte, mais on change peut-être la façon de le dire ou de le livrer.
Oui.
C'est subtil parfois, il y a juste nous qui voyons la différence, mais ça nourrit, puis fait que parce que veux pas, on l'a à peine joué, on l'a joué deux fois avant que les théâtres ferment, donc on ne l'a pas éprouvé, ce texte-là, devant un public, on ne l'a pas challengé. Là, on est rendu là.
Alors, pour vous, comment ça se passe dans le placement des... comment dirais-je, le placement des personnages dans la mise en scène. Moi, j'adore ça, la mise en scène au théâtre. Je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Je vous avoue qu'un petit regret secret d'il y a des années aurait été que je me dirige là-dedans. Mais bref,
c'est possible.
Comment non plus maintenant. Comment ça se vit avec un texte écrit par un avec cinq personnages pour le placement. Est-ce que ce sont des personnages qui restent quand même groupés? Est-ce qu'ils habitent tout l'espace? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ou pas?
En fait, oui, je l'ai monté en 2020, donc en pleine COVID, sans vaccin, etc.
Oui.
Donc, ils sont vraiment sur une chaise, chacune, dans leur petit univers. J'ai pris soin de choisir des interprètes très différents les uns des autres.
D'accord.
Pour justement qu'ils apportent leur unicité, leur rythme, leur... Donc, déjà, le même texte dit par un ou une, ça vient pas pareil.
Oui.
La première partie, puis moi, je travaille longtemps, par petits groupes. Puis donc, ma première partie de travail, ça a été de découper le texte, d'essayer à un à l'autre. T'sais, on a fait des essais-erreurs. Donc, les interprètes comme ça font partie prenante de comment on découpe le texte, de comment on a amené ça. Donc, c'est tout un travail qui s'est fait comme ça, sur le sens. Et ensuite, ben, on va être rendu là, de rencontrer le public la semaine prochaine.
Oui, ça va être bien. Bon, j'en parlerai certainement quand j'en sortirai après, le lendemain.
Oui.
Qu'est-ce que je vais dire? Comment vous vous sentez à l'approche de ça, justement, quand on parle de la semaine prochaine? Ça commence le 17.
Fébrile.
C'est du 17 février au 12 mars.
Oui, c'est ça, dès jeudi prochain. Assez fébrile, contente aussi, malgré toutes ces embûches, qu'on puisse, in extremis, rejouer ce spectacle.
Mais vous allez être dans le moment où, si je ne sais plus, parce qu'au milieu de tout ce qu'on entend, si j'ai bien écouté, le moment où on peut remplir la salle de nouveau à plein?
Nous, on commence un petit peu avant. Ça va être étrange. Un moment donné, en plein milieu, il va peut-être avoir plus de monde. Fait que c'est tout étrange, tout ça. On vit des grands moments étranges.
Bon, ben, si vous êtes prête pour ça, parce que c'est bien, parce qu'il y a eu d'autres fois où à la salle Fred Barry, ça durait pas autant. Du 17 février au 12 mars,
oui.
Ça fait quand même un bon moment pour pouvoir aller les voir. Donc, c'est bien, ça permet de remplir la salle.
Je suis contente. Oui, tant qu'à faire une reprise, j'ai demandé, est-ce qu'on peut être un bout de temps là-bas là, pour que ça vaille la peine, que ça ait un sens, qu'on reprenne, qu'on remette toute cette énergie-là, là.
Et oui, parce que
c'est brutal, hein, de se faire fermer une porte en pleine face.
Ah oui, hein. Oui, j'en doute pas du tout. Et c'était, j'ose même pas penser comment ça a été pour les comédiens et les gens qui ont, les artistes, étant donné que nous on a été en manque. Donc,
voilà. Tu sais, voyons tous les efforts qui ont été faits, les théâtres qui étaient bien sécuritaires. Fait que, tu sais, c'est tout ça, le deuil que tu fais sans l'avoir joué, enfin. Il y a comme des étapes. Hein.
C'est ça, des étapes un petit peu douloureuses avec lesquelles il faut vivre. Bon, alors...
Oui, malheureusement, on n'est pas les seuls.
Non, Luce Pelletier, on arrive à la fin, il nous reste plus qu'une minute. Un petit mot avant de nous quitter sur, sur le fait de faire venir les gens, leur donner le goût.
Oui, en fait, venez pour découvrir cette autrice-là, ce texte-là qui est... réjouissant, je vous jure, ça vaut la peine. Ça fait réfléchir, mais c'est pas noir, c'est pas terne. Ça fait sortir de notre COVID avec des interprètes généreux, enthousiastes, qui ont besoin, soif d'avoir un public.
D'accord.
Et ça se prend très bien. C'est juste une heure. Fait que
c'est pas beaucoup de notre temps. Oui, c'est un bon début. Merci beaucoup, Luce Pelletier. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir.
Oui, un plaisir
à bientôt. Au revoir.
Bonne soirée.
On se quitte avec Louange qui nous chante Crash.
Si demain j'ai encore la gueule à terre, t'inquiète, le ciel va finir par se dégager. Et si le fond du Paris comme phare, bring it on, j'élèverai mon dernier verre à votre santé. Ah, dans la foulée, à mes éclatés, l'orage va bien finir par se tasser. Je feel comme un crash test dummy. Je pressens l'accident comme on attendait Messi. À demi conscient dans le taxi, sable mouvant sous le backseat. She got Messi, je crois je perds un peu la magie. Glam life QC, est-ce que ce sera ma vie? Nomme-moi la ville que tu veux, jure et j'ai mis le feu, charmer les tantes et les neveux, les cousines et les baveux.
j'ai touché le creux.
Si demain j'ai encore la gueule, t'inquiète, le ciel va finir par dégager. Et si le fond du Paris comme Fabrillon, je lèverai mon dernier verre à votre santé. Oh, dans la foulée, à mes éclatés, l'orage va vite finir par se tasser.
C'est pas que tu ne comprends pas. J'ai passé la nuit au plus bas, entre les démons et le passé. Plus envie de m'expliquer, le cœur au point d'imploser. Je suis trop exposé. Jusqu'ici tout va bien, mais le prix je le connais trop bien. Donne-moi un peu de temps, que je retrouve mes yeux d'enfant. Donne-moi ce goût d'avant, qui t'était plus innocent. Après la pluie, vient le beau temps. Oui, mais l'orage dit, fait du ciel ce qu'il est vraiment. Derrière mes yeux, il y a ton sourire. Et derrière le pire, toujours il y a l'avenir.
Et si demain j'ai encore la gueule, attends, t'inquiète. Le ciel va finir par se dégager. L'orage va bien finir par se passer.
Alors voilà, restez avec nous. Dans la prochaine demi-heure, on est avec Louise Véronique Sicotte et on parle cinéma. Voilà, documentaire exactement. Donc restez avec nous, à tout de suite.
Vous écoutez les Faramineux avec Arlette Farah.
No, I'm not afraid to die. It's every breath that comes before. Heartache I've heard is part of life. And I have broken more and more. But I can hope how this will end. Every line of comedy, and we can learn to love without demand, but unreserved honesty.
this to end. The back and forth, the battery for you at last to comprehend the kind of love of which I speak.
Et voilà, donc on vient d'entendre les OLOs qui chantaient This Will End. C'est ça?
Exactement.
Bon, bonjour Louise Véronique.
Bonjour.
Nous sommes avec Louise Véronique Sicotte qui va nous parler donc de deux documentaires. Et le premier avec lequel nous allons commencer, c'est bien sûr un documentaire qui a l'air... Enfin, tu vas nous en parler parce que c'est quand même assez perturbant, assez triste. Perdre Mario de Karl Leblanc. Voilà.
En effet. Mais d'abord, Arlette, j'aimerais dire que le plaisir que nous avons maintenant de pouvoir retourner dans les salles de cinéma.
Ah, et au théâtre, oh, bonheur, au théâtre. Joie, bonheur. Pff.
En effet. Alors, vous pourrez donc voir ce film « Perdre Mario » en salle. C'est un documentaire effectivement réalisé par Karl Leblanc, qui a signé d'autres documentaires, qui est également un auteur. Karl Leblanc a perdu son meilleur ami, Mario. Il l'a perdu dans des circonstances très dramatiques, puisque Mario s'est enlevé la vie il y a quelques années. Et
oui.
Cet événement tragique, puis, Karl a décidé de faire un film sur les conséquences de cet événement-là sur ses amis. Parce qu'il faut dire que Mario et Karl faisaient partie d'une bande d'amis tissée très serrée depuis des décennies.
Ben c'est ça. C'est, oui. c'est ce qu'il dit. C'est que quand j'ai lu ça et que je savais que tu allais en parler... Tu vas en parler dedans, mais quand il dit que son amie Alice dit qu'elle comprend pas comment on peut être à ce point aimé par les amis et puis décider d'en finir, alors c'est bien vrai qu'on sait jamais ce qui se passe dans la tête de notre meilleur ami, la preuve.
La preuve, en effet. Et en fait, c'est que Karl Leblanc voulait non seulement faire parler de ce drame-là, mais aussi faire revivre Mario. Il y a de nombreuses séquences d'archives parce que c'était un groupe d'amis qui se côtoyaient, qui louaient un chalet à chaque été. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de vidéos tournées sur les soupers de famille, les activités hivernales, estivales.
Et puis, alors, il était Mario. Parrain de sa fille aussi. Mario était le parrain de la fille de Karl,
oui.
C'est ça? Hein?
Oui, oui. Mm-hmm. Ah oui, ils étaient vraiment tissés serrés. Et Mario, on le découvre comme un homme, comment dire, donc un bout en train qui aimait faire la fête, qui aimait discuter, qui était toujours audacieux, toujours participatif. Alors, il y a un côté lumineux de Mario que les gens connaissaient, voyaient.
Oui.
Mais il y a un côté très sombre aussi parce que il a quitté ce groupe-là pour retourner dans sa famille, enfin, près de ses frères à Québec. Il s'est senti isolé dans son état de retraité aussi.
Ah oui, d'accord.
La retraite aussi a été pour lui un facteur déterminant aussi, mais aussi une dépression. Et ce qui est le cœur de ce film, c'est aussi le journal intime de Mario.
D'accord.
Et la lecture de ses extraits durant les derniers mois de sa vie, lu par Robert Lalonde. Et Robert Lalonde, on connaît son immense talent comme comédien, mais de rendre ses phrases de désespoir, de tristesse, de solitude, d'isolement, d'incompréhension. Alors, on rentre comme dans la tête de Mario à travers les derniers mois de sa vie. Et ces extraits-là sont illustrés par des séquences d'animation aussi, en noir et blanc, qui sont tout à fait, métaphoriques, mais qui sont tout à fait magnifiques, mais très très douloureuses aussi à regarder, très tristes, parce qu'on est dans la tête de Mario.
Oui.
Il y a également tous les amis hein, qui font partie de cette bande-là, cette bande tu sais, serrée, qui sont interviewés. Et chacune parle très très sincèrement de leur réaction, hein. Ça va de la colère à l'incompréhension, à l'acceptation, à la culpabilité.
Mais tu vois, quand tu en parles, je comprends, puis tu l'as vu, moi je ne l'ai pas vu, mais je me dis qu'on est quand même dans un problème de société pour tous. On a beau avoir autour de nous des gens qui nous aiment, l'être humain est relativement dans l'incapacité de demander. On croit qu'on sait demander, mais en fait j'ai l'impression qu'on ne le sait pas quand on a vraiment besoin de l'autre.
C'est vrai, parce qu'il s'est isolé. En fait, il se sentait inutile, il n'y avait plus de passion. Il se disait, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Qu'est-ce que je vais leur raconter?
Voilà.
Je n'ai rien à leur raconter, tu vois.
Alors, juste dire, j'ai besoin de toi, peut-être.
Peut-être, mais même s'il y avait quand même des amis proches qui lui parlaient régulièrement, il était empêtré dans ces sentiments-là, dans cet isolement. Et alors, c'est toutes les victimes collatérales de ce drame aussi, hein. Et en fait, le film aussi s'ouvre sur un aspect plus éducatif. Par exemple, le centre d'écoute du suicide de Québec, on y fait une incursion aussi pour
d'accord.
voir comment ça se déroule. Il y a aussi des rencontres avec des endeuillés de suicide.
D'accord. Alors,
donc, on ouvre vraiment sur un aspect plus instructif, là, disons. Mais c'est sûr que c'est un film qui porte à beaucoup de réflexions parce que on peut être touché, on peut être, veut pas, on va peut-être vivre éventuellement ce type d'expérience.
Oui, tout à fait.
Parce que personne n'est à l'abri.
Et je dirais même que pendant ces deux années, peut-être que certains l'ont vécu plus que ce qui était dans les chiffres habituels. De toute façon, tout départ comme ça est très... C'est très, très grave.
Alors, plus d'hommes que de femmes, évidemment, qui passent à l'acte.
D'accord.
Ce film-là va être présenté dans des cinémas, mais aussi avec... ça serait bien de pouvoir y assister pour des ciné-rencontres animées par le réalisateur.
D'accord.
Donc, demain, le 11 février, il y aura une ciné-rencontre à la Cinémathèque québécoise.
OK.
À 19h et dimanche au cinéma Beaubien.
D'accord.
Ce qui fait que le cinéaste pourra...
répondre aux questions.
Répondre aux questions... Parce qu'il s'est senti très impliqué, évidemment. Hein. C'était son proche, son meilleur ami. Hein.
Bien sûr.
Alors, c'était une façon pour lui de faire revivre Mario. Mais aussi, c'est qu'on a l'impression qu'à la fin du film, Arlette, on a l'impression de l'avoir connu, Mario. On a l'impression de le perdre.
C'est parce que c'est sans doute. Parce qu'à ce moment-là, il a su montrer leur amitié, mettre leur amitié telle qu'elle sur l'écran, grand écran, pour qu'on le retrouve comme ça.
Oui.
En tout cas... il te reste une petite minute, si tu veux dire autre chose dessus.
En fait, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touchée et je pense qu'il va toucher beaucoup de personnes parce qu'on se sent interpellé et on se met à la place à la fois de Mario, mais aussi à la fois de ses amis.
Oui, et ceux qui restent.
Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et il y a aussi ce sentiment-là d'impuissance. Hein. Mais en même temps... On ne peut pas forcer quelqu'un à... Hein? Alors, lui-même, il voyait un psychiatre et puis, bon, il a cessé de le voir et tout. Il ne se sentait pas suffisamment écouté.
On essaye d'ouvrir les yeux le mieux qu'on peut, mais on ne peut pas agir à la place des autres. Donc, il faut aussi qu'il y ait aussi des questions qui soient posées, des aides qui soient demandées.
Oui.
Merci beaucoup pour nous avoir parlé de ce film-là.
Mais je pense qu'il y a une portée universelle et qu'il faut de l'intime à l'universel, comme on dit, mais qu'il faut voir.
Alors, on va faire une pause musicale avant de parler du deuxième film.
D'accord.
D'accord.
Oui.
Donc là, on va partir vers les baleines noires, mais dans un instant. Pour l'instant, on part avec Projet Orange qui nous chante « De héros à zéro ».
Sans père, on hérite zéro. Demain je fais la une, la première page. Prends-le comme une sérieuse mise en garde. Non, comme un jeu qui n'impressionne personne.
Voilà, donc on revient avec Louise Véronique Sicotte. Et là, c'est pour parler du film Les Dernières Baleines Noires.
Et oui, un autre documentaire.
Oui.
Avec des images magnifiques, mais aussi des inquiétudes face aux pauvres baleines qui disparaissent peu à peu. Ce film sera présenté la semaine prochaine à l'affiche au cinéma du musée en version originale avec sous-titres français. C'est un documentaire réalisé par Nadine Pekeneza, j'espère bien prononcer.
Pekeneza, alors je l'ai pas dit comme il faut moi, mais donc tu fais bien de le redire.
Et elle nous interpelle sur les dangers que vivent les baleines noires en Atlantique du Nord. Vous savez qu'avant, Arlette, tu savais qu'avant, Arlette, il y avait des baleines noires partout.
Oui, parce que j'allais dire, c'est pas fréquent les baleines noires. Et puis là, du coup, tu me dis, il y en avait partout.
Il y en avait partout avant, mais maintenant, il en reste seulement moins de 350.
Ah oui?
Oui, de la Floride jusqu'au golfe du Saint-Laurent.
Ah oui, j'ai lu que, quand tu m'en as parlé, justement, j'ai lu après qu'elle mourait plus vite qu'elle ne se reproduise.
C'est ça, oui. Et pourquoi elle meurt? C'est la question qu'on soulève dans le film.
Mais à cause de nous.
Exactement, à cause de l'activité humaine.
Oui, c'est ça.
Deux éléments particuliers, les hélices de petits bateaux et l'âge des caveaux pour des cages pour les crabes des neiges.
Mais d'accord.
Comment dire donc? L'espoir là-dedans, c'est qu'il y a une mobilisation citoyenne. Et c'est ce qu'elle nous démontre dans le film. Ces citoyens-là n'attendent pas l'action des gouvernements. Ils se prennent en main, ils se mobilisent. Alors, il y a des chercheurs, des biologistes, des sauveteurs de baleines, il y a des pêcheurs de crabes des neiges.
D'accord.
Et on voit leurs actions. Et peut-être que l'union de toutes ces actions-là va faire en sorte que, bon, peut-être qu'il y aura moins de morts de ces baleines, parce que le tournage a duré quand même 4 ans,
de
2017 à 2021, et durant cette période-là, il y a 34 baleines qui sont décédées. D'ailleurs, dans une des séquences du film, on voit un bateau ramener au rivage une baleine morte de ses blessures, mais quelle tristesse, et toutes les personnes qui étaient concernées ressentent une tristesse immense, parce que c'était comme un de leurs proches.
Des personnages, quand je vois le groupe de personnes, c'est vraiment des personnages extrêmement différents. Il y a un photographe de la vie sauvage, un biologiste marin, un homme d'affaires, on se demande, pour un homme d'affaires, une femme photographe animalier, ça je comprends déjà mieux, un biologiste marin, un sauveteur de baleines et un pêcheur de crabes.
Oui, et il y a aussi des bénévoles qui sont là sur les côtes de la Floride à juste les observer, remarquer leur présence.
D'accord.
Mais ce sont des personnes qui ont à cœur ce cétacé, parce que la baleine noire, elle est magnifique et on peut la voir justement dans ce film de vue des airs grâce au drone. Donc ça nous propose des images inédites des baleines avec leurs baleineaux.
La baleine noire, est-ce qu'elle est de la même taille qu'une baleine grise ou blanche? C'est plus petit? Non?
C'est quand même une taille imposante. Là, j'ai pas le
Je me mettrai pas à côté moi non plus, je te rassure.
Je me mettrai pas, non, mais c'est quand même gigantesque parce que quand on la voit une sur le rivage, là, c'est plusieurs éléphants, disons.
D'accord.
Okay. Alors,
compte,
mais le problème aller, aussi, c'est justement les c'est les cordages, hein, des cages,
et on en voit dedans.
Une qui est empêtrée dans ces cordages-là.
Ah oui, c'est ça.
Tentative de la sauver, mais c'est pas évident parce que une baleine peut vivre des mois et des mois avec de nombreuses...
En étant blessée.
Oui, en étant blessée.
Mm-hmm. Quelle horreur.
Alors, il y a quand même de l'espoir, parce qu'il y a quand même des innovations, par exemple, d'avoir des cages de crabes, mais qui n'ont pas de cordage.
Oui, d'accord.
Alors, ce qui fait que ça pourrait être une possibilité, justement, pour les épargner.
Oui.
C'est, en fait, comme on dit dans le film, les baleines sont une métaphore de la mer, et leur déclin nous en dit beaucoup sur ce qui arrive à l'océan. Et moi, ça, je ne connaissais pas les baleines noires.
Moi non plus, pour te dire la vérité. Non,
c'est
vrai.
C'est un film qui nous fait découvrir ces cétacés, mais aussi leur beauté, leur intelligence. Une mère va garder son petit pendant un an à ses côtés. Mais il y a 50% des baleineaux qui arrivent à l'âge adulte.
D'accord.
Alors, c'est un film qui est d'abord pédagogique, instructif, mais un film de conscientisation. Alors nous, évidemment, comme citadins, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Ben, au moins, on est conscientisé à cette fragilité de ces grands mammifères, mais de leur beauté aussi. Hein?
Et on peut peut-être... agir. À partir du moment où on sait les choses, il y a des actions qui peuvent se faire, ou aider, ou simplement aller aider des gens qui s'y connaissent et faire quelque chose pour ça.
Des dons également, des organismes.
Des dons pour... Oui, oui.
Oui, oui. Alors, c'est un documentaire qui est présenté, comme je le disais, au cinéma du musée. Il faut le voir sur grand écran, parce que voir les baleines avec leurs jets d'eau, là, elles sont tout à fait magnifiques. Ce sont des baleines qui sont aussi près de nous d'une certaine façon, parce qu'elles viennent jusque dans le golfe du Saint-Laurent.
Oui.
Et c'est de voir aussi leur fragilité, leur beauté. Puis on est responsable, hein? On est responsable.
Bien sûr, on est responsable de tellement de choses, entre nous, soit dit. Si ça nous ouvrait les yeux un petit peu plus, quand je dis nous, je me mets dedans. Hein?
Oui, oui. Mais en fait, ça nous ouvre les yeux sur cette réalité-là, la fragilité de la vie. Et comme qu'on a aussi de la difficulté à coexister avec les mammifères marins. Mais aussi, comme dans le film, on disait une réflexion qui était très belle et très juste aussi, c'est qu'enfin, on est fasciné par les animaux. Et quand on devient plus grand, adulte, on perd ce sentiment-là. Donc, il faut restaurer cet émerveillement.
Pourquoi? Mais enfin bon, on arrive à la fin de ça, mais c'est pourquoi? Pourquoi on perd cette envie d'aimer, voilà.
Être touché, émerveillé par la nature.
Parce que ça nous fait peur, mais ça fait partie de la vie. Si ça existe, c'est que ça sert à quelque chose, on sert tous à quelque chose. Enfin, en tout cas, tout ce qui est dans la nature sert à quelque chose. Nous, j'en suis de moins en moins sûre, mais voilà. Eh ben, écoute, Louise Véronique, tu nous as donné le goût. De ces deux documentaires, en tout cas,
oui,
d'aller les voir l'un comme l'autre, et puis de de faire attention. Alors faire attention au monde animal et faire attention aux personnes qui sont autour de nous, les regarder autrement qu'avec un sourire distrait.
Oui, en fait, ces deux films-là là-dessus. Ont en commun la fragilité de la nature humaine et de la nature.
Voilà, donc belle phrase de fin, Louise Véronique. Merci beaucoup pour tout ça.
À la prochaine, c'est toujours un plaisir, Arlette.
Eh bien, écoute, merci pour tout ça, puis je vais faire attention. Est-ce que tu vas bien, Louise Véronique?
Je vais très bien, Arlette.
Bon, je te remercie.
Prenons
soin de nous et de la nature. Alors, merci, on te dit au revoir, et puis à la prochaine fois. Et là, on part en musique avec Lenny Kim qui nous chante « Pourquoi tout perdre ?» Voilà.
Oh. remplis le vide de mes souvenirs. Quand j'aurais dû oublier, on oublie de s'oublier. Les mirages étrangers, je plane quand je revois ce sourire. Mais les nuages partent en fumée, et dans la brume tout va s'éclipser.
Non, ça ne me suffit plus, mes souvenirs ne me suffisent plus. Plus on se cherche, plus on s'éloigne, creusant dans le néant de long en large. Oh, où que j'ai attendu, qu'on aille où on ne s'est pas rendu, pour revivre les jours qui nous sont tués. À travers mon silence, ne fait que détruire mon parcours. On vit la nuit pour se mettre un jour. Hors de moi, je compte sur l'autre moitié de mon existence. Ne pas oublier ce qui m'entoure. Tu m'attendras, c'est à ton tour.
Ça ne me suffit plus. Les souvenirs ne me suffisent plus. Plus on se cherche, plus on s'éloigne. Je sens le néant de long en large. Oh, où que j'ai attendu. Pas pour revivre les jours qui nous sont tués.
Pourquoi tout perdre, ne jamais réaliser toute la peine que j'aurais créée. On vous serez toujours là pour moi.
Tout est spécialisé.
Le temps pourra tout effacer. Les chemins ne doivent pas nous écarter.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. C'était vraiment sympa. Merci à Luce Pelletier, merci à Louise-Véronique Sicotte et bien sûr, merci à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Donc, je vous dis à demain pour finir la semaine ensemble. Au revoir, bonne soirée.